Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr, trichothérapie. Si tu ne sais pas par où commencer pour remonter la pente, je te donne rendez-vous le 29 octobre où j'anime une conférence pour vous partager vraiment les 5 étapes essentielles, les 5 trucs à faire pour créer votre propre bouclier anti-burnout. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Cette semaine, j'ai envie d'aborder un sujet souvent passé sous silence, ou du moins disons pas vraiment pris au sérieux, voilà. Déjà que le burn-out, il n'est pas très pris au sérieux, mais alors le burn-out chez les parents l'est encore moins. On n'a qu'à voir l'Organisation Mondiale de la Santé qui ne le reconnaît pas, donc elle reconnaît l'épuisement lié au travail professionnel, mais elle ne reconnaît pas réellement le travail de la maison, le travail domestique et le travail parental. Donc déjà, rien que ça, ça pose problème, parce que du coup, toi, quand tu vas voir un employeur ou même ton médecin traitant, parfois, malheureusement, beaucoup ne sont pas du tout sensibles à cette question et ils trouvent que c'est un peu des problèmes de riches, entre guillemets, et que ça n'existe pas et qu'on est une génération de petite nature, voyez-vous. Donc, même si être parent, donc c'est peut-être un épisode qui va pas concerner tout le monde du coup, mais voilà, c'est pas grave, hein, y en a 100 autres qui concernent un peu tout le monde. Je voulais vraiment faire un petit aparté pour le burn-out parental, parce que certains, c'est gratifiant d'être parent, c'est pas moi qui vais dire le contraire, je m'éclate avec mes enfants, je leur fais école à la maison, je les ai allaités jusqu'à 2 ans et demi, jusqu'à aujourd'hui la petite faut encore un peu de cododo, donc vraiment je me suis donnée à fond, et je le fais pas parce que je le subis ou parce qu'on me l'a imposé, je le fais parce que j'en ai envie, parce que ça me donne de la satisfaction, parce que ça me fait grandir, parce que je me suis reprise en main grâce à ma maternité. Donc, c'est un truc super cool. Ok, pour ceux qui veulent être parents, bien évidemment que c'est très bien. Mais par contre, on va pas se le cacher, c'est épuisant, c'est éreintant. Il y a des chiffres pour ça. En 2022, en février, ils ont signalé quand même 40% des mères en France qui ressentent des sentiments liés au burn-out parental. Il y a l'étude de l'IFOP, qui a dit que 34% des mères françaises seraient concernées par l'épuisement physique et psychique. En gros, c'est un burn-out parental, quoi. On met pas le mot, mais on est en plein dedans. Et 20% de ces mamans auraient développé un burn-out parental. Et 14% disaient qu'elles en souffraient, genre là maintenant pendant l'étude. Et même la CAF en fait, même la CAF s'y intéresse pour dire que ça commence à poser problème à la France, parce que ils ont recensé 5 à 8% des parents qui seraient concernés par le burn-out parental. Il y a eu une autre étude de l'IFOP publiée en avril qui a révélé que 34% des mères se disent épuisées par la parentalité. Donc je veux dire, c'est quand même alarmant, sérieusement. Et perso, j'en ai la preuve avec les mamans que je suis. Bon, alors, je vais beaucoup parler du coup du burn-out maternel, celui de la maman, parce que moi, j'accompagne que les femmes. Et encore une fois, c'est un positionnement, mais purement politique, absolument rien à voir avec ma confession religieuse. Parce que oui, on me pose la question, comme si j'avais pas le droit de parler avec des hommes ou je sais pas quoi. Mais je trouve tout simplement qu'il y a déjà plein de coachs, et notamment des coachs hommes, qui font du très bon boulot. Mais par contre, très peu de coachs insistent sur la particularité de la femme, son statut dans notre société, que ce soit toute la pression qu'elle subit, tous les codes sociaux qu'elle doit suivre, toute la charge mentale, tout le déséquilibre dans le couple et toutes les fluctuations hormonales. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent ça en compte, pour ne pas dire très très peu. Donc moi, j'ai fait le choix de proposer des solutions extrêmement adaptées à la femme d'aujourd'hui, parce que j'estime que c'est pas dit sur tous les toits, qu'il y a encore plein de sujets tabous. Mais voilà, ça ne veut pas dire non plus que j'occulte le burn-out des papas. D'ailleurs, on commence à en parler dans les émissions. Alors, je ne l'ai pas vu, du coup, je ne sais pas ce que ça vaut exactement, mais je sais qu'il y a eu l'émission Zone Interdite qui était passée sur M6, qui mentionnait des papas victimes de burn-out. Donc, ça commence quand même à prendre de la place médiatiquement parlant, donc j'ai pas peur pour eux. Je sais que l'homme, il finit par trouver la solution un peu partout. La femme, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'essaie de donner plus de place à la femme. Donc bref, je disais que c'était alarmant les chiffres que je t'ai partagés juste avant. Et en plus, je le constate avec les nanas que j'accompagne qui perdent toute envie d'être avec leurs enfants ou de passer du temps avec leurs enfants, où tout est corvée, tout est tâche, tout est pénible, où lire une histoire, c'est une corvée. Voilà, il n'y a plus rien de plaisant à être mère au final, parce que ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise maman, ça veut tout simplement dire que l'épuisement, il est tellement physique, émotionnel et cognitif qu'elle rentre dans une apathie totale, une désensibilisation, et il y a tout ce fond de colère, d'irritabilité, de regret, de culpabilité. C'est des mauvaises vibes, quoi. Donc ça ne peut que mal aller. Du coup, vraiment, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, sérieusement, prends au sérieux ta situation. Tu peux rejoindre la conférence du 29 octobre parce qu'on va en parler, et parce que non, quoi, c'est pas normal de vivre une parentalité aussi naze. C'est dommage, le temps il passe et il te restera que tes regrets. Encore une fois, on en a marre, quoi, d'avoir des regrets. On aimerait bien régler maintenant, soigner, réparer, solutionner le truc maintenant, qu'on passe le plus vite possible à une parentalité épanouie. Voilà, il y a aucun intérêt à laisser traîner, à attendre. On verra dans 2 semaines, on verra dans 1 mois, parce que crois-moi, il n'y a rien qui va se faire tout seul. Donc, à ton avis, quelles sont les causes de cet épuisement parental? Alors, oui, tu me diras, y a le mot épuisement, donc je suis épuisée en fait. C'est le fait d'être naze, parce que bébé sollicite plus, ou l'enfant sollicite plus, parce que les nuits blanches, parce que les rhumes, parce que les devoirs, parce que les bains, parce que l'organisation, peut-être l'allaitement, parce que le rythme effréné entre le boulot et la maison. Donc, effectivement, il y a une surcharge de tâches, il y a une surcharge mentale. Mais voilà, j'aimerais aller quand même un peu plus loin et voir qu'est-ce qui t'amène exactement à cet épuisement. En fait, qu'est-ce qui t'amène à être dans cette surcharge? Ok, la surcharge de boulot est problématique, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à cette surcharge-là? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, du poids des attentes sociétale, quand je parle des codes sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on impose à la femme, comment elle doit être au top au boulot, comment elle doit être dure peut-être au travail, comment elle doit être disponible, arriver très tôt, partir très tard, comment est-ce que elle est obligée de concilier et vie pro et vie perso, parce que si elle prend un congé parental, elle risque de subir des conséquences et des représailles dans le milieu professionnel. Est-ce qu'on peut parler de cette pression sociétale en termes pro, mais aussi le fait d'être jugé par sa voisine, sa cousine, la mère de la copine de son enfant, vraiment d'être jugé par la société, comment tes enfants sont habillés, comment ils se comportent à l'école, est-ce qu'ils ont des activités extrascolaires ou pas, est-ce que toi tu fais des activités avec eux ou non. C'est voilà, on est dans les repas équilibrés faits maison, et puis t'as intérêt à les prendre en photo et le prouver sur les réseaux sociaux que tu fais bien des trucs équilibrés faits maison. Est-ce que tes enfants, ils ont l'air épanouis ou pas? Tu vois, ils doivent être souriants tout le temps, tout beau, tout rose, tout sage. Parce que voilà, que ce soit les réseaux sociaux, les magazines, les discussions entre amis, enfin, à chaque fois qu'on parle de parentalité. Et encore, on va pas se mentir, il y a de plus en plus de podcasts aujourd'hui qui démystifient un petit peu la parentalité, l'accouchement, pour mettre un peu plus de réalité dans tout ce fantasme virtuel sur nos réseaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que tout le monde sait qu'on montre ce qu'on veut et qu'on dit ce qu'on veut un peu sur les réseaux sociaux, et qu'il y a Instagram versus la réalité, il y a les discussions entre famille, amis versus la réalité, il y a les points de vue des gens, leur vécu versus la réalité. Je pense que ça va, on est un peu éduqué là-dessus, on a compris qu'il y a quand même un écart et qu'on doit prendre du recul quand on voit les belles images, les belles vidéos, les beaux témoignages, les beaux retours, la belle vie, quoi. La belle vie un peu sur les différents écrans et même les différents types de supports qui peuvent parler de la parentalité, et se dire que ça reste du marketing, en fait. À mettre des paillettes dans ce qui est ordinaire, en fait. Donc, vraiment garder à l'esprit, revenez toujours à ça. Prendre du recul quand on voit de belles choses ou quand on entend des belles choses, parce qu'on n'a qu'un fragment. Ça ne veut pas dire que ce qui est montré, ce qui est dit est faux, ça veut juste dire qu'il est incomplet. C'est comme si tu avais une image, mais en réalité, ben, tu n'as que le quart de l'image. Donc, les trois autres quarts, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, en réalité, on ne peut pas savoir si les gens sont si bien et si parfaits que ça. Le problème, c'est qu'on aura tendance à se comparer à cet idéal et à vouloir atteindre cet idéal. Et c'est ça qui va t'amener, c'est ça qui pousse généralement, c'est ça qui provoque ce surengagement, cet agenda de ministre. Et d'ailleurs, on peut même être désaligné, en fait, dans notre parentalité, dans le sens où on veut tellement plaire donc à cette société ou à ces gens ou je ne sais qui. Et donc, tu vas faire des choses qui sont bah, bien vues parce qu'on t'a dit de les faire et du coup, bah, tu les fais. Mais en réalité, toi, tu ne veux pas du tout les faire. Bah, par exemple, mettre tes enfants dans trois activités par semaine alors que l'enfant, ça se trouve, il ne veut pas. Toi, ça te gonfle, mais tu vas quand même le faire parce que c'est bien vu. Le fait bah, cuisiner, tu vois, peut-être que toi, tu n'aimes pas cuisiner, donc tu pourrais déléguer à quelqu'un d'autre ou simplifier ta cuisine, ne pas forcément rentrer dans les clichés. Ça peut être le fait d'être tout le temps dans les activités de l'école, parce que bah, on va dire que tu as un parent impliqué alors que toi, ça te gonfle, ça te fait chier. Donc, bref, on peut donner tout un tas d'exemples de choses. Enfin, l'allaitement, c'est trop bien d'allaiter, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais il y en a, elles veulent pas le faire, donc bah faut pas le faire, c'est pas parce que c'est recommandé, c'est bien vu, et qu'on va te considérer comme une maman super impliquée, empathique et naturelle et je sais pas quoi. Non, mais si t'as pas envie, t'as pas envie. Non, tout, en fait, toute décision dans ta parentalité, il faut que tu sois absolument ok et aligné avec ça, il faut que ça ait du sens pour toi, il y a un intérêt, que ça vaut la peine. Mais la peine par rapport à toi, toi et ton enfant, ta relation avec ton enfant, pas ça vaut la peine par rapport au regard des autres. Donc à se demander aussi si l'épuisement parental n'est pas lié à ce désalignement parce que ben, on fait les choses alors qu'on n'en a pas du tout envie, alors que c'est pas du tout dans nos valeurs. Ça peut être aussi un manque de soutien de la part de la famille, des amis ou voilà, de ta communauté qui peut te laisser un peu te sentir isolé et surtout bah, submergé ou peut-être même un manque de demande d'aide, un manque de déléguer finalement. C'est-à-dire que tu pars du principe que tu dois tout gérer toute seule comme une warrior, comme une guerrière, tu vois, parce que tu gères la fougère, comme dirait l'autre. Et à aucun moment, tu vas demander de l'aide parce que ça ne se fait pas. Parce que ça veut dire que je gère mal, parce que j'y arrive pas, donc je veux pas que les gens se disent que je n'y arrive pas, donc je ne demande pas de l'aide, je vais me débrouiller, et ça va aller. Et bien sûr, tu ne délègues pas, soit parce que tu ne veux pas, pareil, qu'on dise que tu n'y arrives pas toute seule, soit genre perfectionniste, si je lui délègue, il le fera pas correctement, blablabla, et donc t'es là dans ton cercle vicieux, à te surcharger de boulot, alors qu'en réalité, tu peux soit demander de l'aide, soit déléguer. Et puis, je finirai par the raison, c'est le fait d'avoir bah, zéro temps pour toi, te négliger au plus haut point pour t'occuper des autres. Et là, on revient à cette voiture qu'on ne vidange pas, où on vérifie pas les niveaux d'huile, on change pas les plaquettes de frein, je sais pas moi, on lui met pas le bon carburant, vraiment cette voiture où dont on s'occupe pas du tout, forcément elle va rouler, mais à un moment donné, elle va s'arrêter en pleine autoroute et tu seras bien dans la mierdas. Donc je sais que c'est déjà compliqué d'être parent, c'est déjà compliqué de fournir de l'énergie et du temps pour tous ces gremlins, donc tu vas me dire où est-ce que je vais trouver du temps pour moi, pour me ressourcer, pour me régénérer, pour me recharger, ne serait-ce que pour une sieste de 10 minutes ou je sais pas moi, une petite balade de 10 minutes où juste je sors dans mon jardin si j'en ai un ou dans mon balcon où je sors la tête de la fenêtre pendant quelques minutes où je regarde les nuages passer. Mais en réalité, tu dois te dire que t'as pas le choix. C'est ça, en fait. C'est que prendre soin de ta personne, c'est pas facultatif. C'est pas optionnel. C'est pas si j'ai le temps. Prendre soin de toi, c'est indispensable. Ça fait partie des un peu comme respirer. C'est des trucs super importants. Imaginons que t'avais une maladie chronique. Bien sûr, je souhaite à personne. Hein. Mais imaginons, on a une maladie qui nous pousse à aller chez le médecin régulièrement, l'hôpital régulièrement, prise de sang, blablabla. Bah, tu le ferais. Que tu sois parent ou pas parent, tu vas le faire, tu vas y aller à tes rendez-vous. Il y a aucun... On est bien d'accord, tu te démerderas pour aller à tes rendez-vous. Bah, prendre soin de soi, c'est un peu ça. Parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu t'occupes des autres et que tu te négliges, à un moment donné ou un autre, il va y avoir ce déséquilibre et il va y avoir cette voiture qui tombe en panne, donc tu vas finir par faire ton burn-out. C'est qu'une question de temps. Vraiment, comprends-le, c'est qu'une question de temps. Si on se néglige, ce n'est qu'une question de temps. Donc, il faut prendre soin de soi. Mais bien sûr, il faut adapter tes objectifs, tu les adaptes à tes journées, tu les adaptes à tes besoins, à ce que tu es capable de faire aujourd'hui, aux personnes qui t'entourent aujourd'hui, à tes possibilités. Et c'est encore pour ça que vraiment, je t'encourage à réserver ta place à la conférence du 29 octobre, parce que du coup, on va en parler des étapes à suivre pour bien choisir ta routine et pour bien créer en réalité ton bouclier anti-burnout. Mais je peux déjà te partager trois conseils. Le premier, c'est de rejoindre un groupe de parole. Super important, un groupe de parole, un groupe de soutien, qui soit en mode visio, en réel, par écrit, qu'importe. Faut vraiment sortir de ton isolement et aller voir d'autres parents, ou pas forcément, hein, d'autres personnes qui vivent un épuisement comme toi. Là, si toi, tu fais pas partie de la Safe Place, bah clairement, pourquoi ? Pourquoi tu fais pas partie de la communauté Safe Place ? Donc, je te mettrai le lien dans le descriptif. Mais rejoins, c'est une communauté très, très loin des réseaux sociaux, même si ça ressemble dans le sens où, voilà, il y a des posts, il y a des commentaires, tu vois, faut bien qu'on échange. Le but, c'est d'échanger. Donc, vraiment, il faut faire partie de cette communauté. Elle est offerte. Tu déposes et tu prends ce dont tu as besoin. Tu as des défis à relever. Donc, vraiment, si tu fais pas partie de la Safe Place, why? Ensuite, va falloir se déconnecter un maximum. Limiter le temps sur les réseaux sociaux, ou alors suivre des comptes vraiment qui montrent une image réaliste de la parentalité. Écouter des podcasts qui parlent de la parentalité. Et toujours, toujours prendre du recul quand, par exemple, tu es en train de regarder quelque chose et que tu as ce, t'sais, ce truc, ce moment où tu dis « purée, je suis vraiment très loin, quoi. Je suis trop naze, ma vie, elle est trop nulle. Regarde comment elle, c'est bien, j'aimerais trop être comme ça. » Alors là, il y a une petite différence. Tu peux être inspiré par des gens pour t'encourager. Mais dès qu'il y a des petits sentiments un peu de mépris envers soi, un peu de dénigrement ou de se sous-estimer, voilà, dès qu'il y a des mauvaises ondes, encore une fois, tu prends du recul en te disant « mais tu connais pas du tout la vie de la dame. On sait pas du tout ce qui se cache derrière cette belle image ou ce beau réel ou je sais pas, ce beau live, j'en sais rien, cette vidéo YouTube. » Bref, vraiment, rappelle-toi qu'il faut prendre du recul. Et enfin, redéfinir un peu la parentalité. La parentalité qui nous est vendue aujourd'hui, est-ce qu'elle est réellement... déjà, est-ce qu'il n'y a que cette parentalité-là ? Peut-être qu'il y en a d'autres et que toi, tu peux choisir une autre parentalité qui va te correspondre beaucoup mieux et qui va te demander beaucoup moins d'énergie. Redéfinir aussi tes priorités, c'est-à-dire est-ce que ton enfant aujourd'hui il a besoin de matériel, est-ce qu'il a besoin de 15 000 activités, de 75 000 livres, de je sais pas combien de jeux, ou est-ce qu'il a juste besoin que tu lui souris, que tu lui lises un livre et que tu sortes te balader avec lui. Vraiment, on dirait que j'oriente un peu la réponse, mais redéfinis ta parentalité. Sors des standards, sors du classico-classique, je sais pas, sors de cette recette qu'on nous vend, le truc là un peu parfait. Sors de là et fais-toi ta propre parentalité. Encore une fois, moi quand je dis aux gens que je fais école à la maison, j'exagère, mais il y a très peu de personnes qui me comprennent. Ou alors qui trouvent ça super dur. Pourtant, moi ce que je trouve dur, c'est me lever tous les matins, déposer mes enfants, et les récupérer le soir, et les remettre le lendemain. Tu vois, chacun sa parentalité et fais ce qui te correspond. Donc c'est pareil pour les repas, pour les vêtements, pour les activités, pour le temps que tu leur offres, pour la routine du matin, du soir. Revois ta définition de la parentalité et à quoi elle doit ressembler selon toi et donne-lui vie. Tout simplement, sans prendre en compte ce que disent les autres, surtout ceux qui ne seront pas d'accord avec toi. Bien évidemment, on reste toujours dans la bien-traitance de l'enfant, dans son équilibre et dans son bien-être. En tout cas, si tu veux découvrir des stratégies plus approfondies pour sortir du burn-out et retrouver un équilibre dans ta vie, que ce soit de célibataire ou de maman solo, qu'importe, vraiment inscris-toi au webinaire du 29 octobre, on prendra le temps d'en discuter. Et bien sûr, tu trouveras toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies et le rendre plus connu finalement et donc plus accessible à ceux qui cherchent des informations quant au burn-out, tu peux me laisser un avis ou me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux le partager tout partout autour de toi, on ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Et bien sûr, si tu veux échanger sur cet épisode ou sur une autre problématique, soit tu me rejoins sur la Safe Place, soit on se donne rendez-vous sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good. Thank you.